En RDC, ils sont des milliers de personnes à réclamer le remboursement de leur mise au sein de l'ONG Dutch International. Ces souscripteurs se retrouvent principalement à Kinshasa, Goma et Lubumbashi, qui sont les trois villes du pays où opérait cette institution financière. Celle-ci vient d'être fermée sur décision de la Banque centrale. Selon elle, cette ONG réaliserait illégalement des opérations de banque à l'instar du phénomène d'escroquerie de triste mémoire dénommé Bindo. Quelle est la procédure juridique que les souscripteurs peuvent suivre pour entrer dans leurs droits? Réponse avec Maître Dominique Amandou, de l'ONG Avocats sans frontières. Maître Dominique est d'ailleurs déjà dans ce studio. Mais on fait le point avec Jeudi Kachama. Jeudi, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, pourquoi a-t-on fermé les bureaux de Dutch International, si on peut faire un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière?
Oui, Dutch faisait des activités bancaires réservées aux institutions de microfinance, alors qu'elle n'avait que le statut d'une ONG. Après plusieurs avertissements sans succès, le gouverneur de la Banque centrale a pris la décision d'arrêter les activités de cette ONG. Suivant les explications de M. Katalico Viranga, directeur à la Banque centrale chargé de la supervision des intermédiaires financiers.
Quand nous avons appris que cette ONG est en train de faire des activités bancaires, nous avons dépêché les inspecteurs de la Banque centrale pour s'informer, pour vérifier les faits. Après avoir vérifié les faits, nous avons invité les responsables des dettes à nos bureaux pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est une activité réservée aux institutions de microfinance, aux établissements de crédit. Il faut cesser. Alors, c'est à ce moment-là que le gouverneur de la Banque centrale a confirmé la fermeture, n'est-ce pas, de cette ONG pour les activités bancaires. Alors, nous avons appris qu'ils sont en train d'opérer à Goma et à Lubumbashi. Alors, nous avons étendu cette suspension à Lubumbashi et à Goma.
Voilà, alors comment les clients de cette institution ont-ils réagi face à cette décision?
Oui, c'est la colère, c'est le désarroi, la désolation à l'idée de perdre en un seul jour tout ce que l'on a pu économiser pendant plusieurs années. Et écoutons d'ailleurs les réactions de ces souscripteurs de Dutch que nous avions surpris en plein sit-in devant le Palais du Peuple.
Moi, j'ai misé plus d'une trentaine de mille dollars. Donc, et pourtant, vous me voyez être dans tous ces états. Donc, après tout ce que j'ai eu, toutes mes économies, toute ma vie.
Le gouvernement a dit que ça a dit ce bruit. Ceux qui le lot, ils ont vivre ça pour la date ouana. Alors, grâce à Dutch, on a supporté maman dans la balle qui n'a pas été 4000 dollars dans l'ensemble. Mais il y a une partie, nous sommes dans le monde. Il y a des
premières mises au social.
Là, il y a déjà une quatrième opération dans la salle. Il faut que vous retirez.
Dites aux membres, à bas, je vous ai déclaré que nos dates sont bonnes. Au contraire, je vous ai dit que nos dates sont bonnes. Donc, au comité, vous avez une amende. Après, ça va être un peu plus. Donc, ça va quand même nous mener en boca. Comment expliquer un homme de Béba et un autre poli? Lorsque le gouvernement donne le communiqué, soi-disant que c'était une vaste escroquerie, nous disons que la consommation de l'infraction de l'escroquerie n'était pas encore établi, parce que Dutch était encore là. Nous demandons au gouvernement de libérer les responsables de Dutch. La Banque centrale ne maîtrise rien en ce qui concerne les membres de Dutch International. Qu'on les libère, soit sous l'encadrement du gouvernement ou de la Banque centrale, qu'on procède à la restitution de créances des membres. Nous souffrons,
vous personnellement, combien vous avez placé?
Des dizaines de milliers de dollars.
Voilà, il y a un peu de confusion, hein, parce que en quoi ce que vient de dire ces messieurs, cet intervenant, c'est que il dit l'infraction, la consommation de l'escroquerie n'était pas encore établie.
Oui.
On verra peut-être avec Maître Dominique si cela est vrai. Mais je dis, cette ONG fonctionnait pas seulement à Kinshasa. Nous avons l'information que il y avait quand même des antennes à travers le pays.
Tout à fait, Dutch fonctionnait dans trois villes, à savoir Goma, Lubumbashi et Kinshasa. Elle comptait près de 30 000 membres, dont 15 000 à Kinshasa. Que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, les réactions sont les mêmes. Les souscripteurs réclament tous le remboursement de leur mise. Certains demandent même au gouvernement de libérer les responsables des DASH afin qu'ils procèdent au remboursement des mises sous la supervision de la Banque centrale. Après cela, on peut fermer ces ONG. Écoutons le point de vue de cette dame de Lubumbashi.
Niju turekipere makuta yetu, tunapenda koordinateri mwenye wa Dutch International yeko wako, denye za persona fiziku wa Dutch International yeko wako, baza libere, bakuye, bagoba tulipa makuta yetu, mufasan tulibeba na wangajma. Juhi la makuta ina kuvernemari tupachia, ana Dutch International tupachia makuta pane, ni makuta yetu tulidepoze adezina $50. Kisha tunabe makuta yetu tunadepoze, ni onje aina mikrokredia pane. Tunakawa sana na njara depuis le 17 jusqu'à 12. Leta ufana nguvu yaki yote, juu mtumbo kama yina na kinto, ahita kwa na mashiki yote na pana. Chiba mama tunateswa sana, njali natupita, bafanya ambrefu dele patupachia bintu yetu bupeji.
Alors, si on relâchait les responsables de DASH, jeudi, seront-ils à mesure de rembourser les mises de ses clients?
Oui, selon M. Matabaro, chargé de marketing et informatique à DASH International, qu'on libère les responsables de DASH. Ils savent comment ils font leurs opérations. Ils seront, bien évidemment, à mesure de rembourser les mises des clients. Écoutons M. Junior Matabaro.
Qu'on relâche le numéro 1 de DASH et qu'on nous ouvre nos bureaux, nous laisser travailler en partenariat avec la banque aura surveillé tous les mouvements financiers de DASH quand il le voudra, comme il le voudra. Si on laisse DASH fonctionner, DASH est à mesure de rembourser, de payer avec les intérêts, tous ses membres, parce qu'on a des activités qu'on fait. L'argent qu'ils ont pris dans nos coffres forts, c'est pas tout cet argent-là qu'ils seront payés le membre, parce que cet argent-là n'est pas capital jeté à le DASH. Ils vont payer un certain nombre de membres et les autres seront lésés. Ils n'auront pas leur argent. Tous ces membres-là qui marchent, aucun de membres n'a demandé voir DASH fermé. Tous ces membres demandent qu'on réouvre DASH et qu'ils soient payés par DASH.
Voilà, beaucoup de préoccupations. Nous aurons peut-être l'éclairage avec notre invité, Maître Dominique Kamwandu. Avec vous, jeudi, on s'arrête là. Voilà. Et bon début de semaine.
Merci, à la prochaine.
Si je vous dis, ça fait Atimba, ambiance à gogo, curiosité, temps mauvais, amitié, massa, musique, informatique. À qui pensez-vous?
À les jeunes congolais.
Mais encore,
au capitaine, les radios capitaines.
L'émission des artistes, des étudiants, de la musique, des passionnés de nouvelles technologies, des témoignages de jeunes. Au Café Jeune, pour se rencontrer, échanger, danser, partager, se cultiver. Du lundi au vendredi, de 15h à 17h, heure de Kinshasa, 16h à 18h, heure de l'Est. Ça va bouger sur Radio Café.
Maître Dominique Kamwandu, bonjour.
Bonjour, JR.
Alors, la loi congolaise protège-t-elle les souscripteurs dans une banque?
Merci beaucoup, JR. Nous devons d'abord préciser que lorsque on souscrit ou on ouvre un compte dans une banque, on a fait un contrat avec cette banque et il y a des obligations des parts des autres. Lorsque l'une des parties n'arrive pas à respecter ses obligations contractuelles, on peut l'y contraindre, même par des voies, des droits, même par la justice. Donc, les règles des droits positifs congolais protègent et garantissent la sécurité des souscripteurs dans une banque.
Alors, nous avons suivi le point que venait de nous faire notre confrère jeudi. Et quelque part, l'intervenant a parlé, pour le cas d'espèce, de la fermeture de DASH International, que l'infraction de la consommation de l'escroquerie n'était pas encore établie. Vous connaissez bien cette affaire, DASH qui vient d'être fermée. Est-ce que vous confirmez cette allégation?
Bon, qu'est-ce qu'on appelle escroquerie en droit? Pour qu'il y ait escroquerie, on doit avoir des éléments aussi bien matériels que moraux pour pouvoir certifier qu'effectivement il y a eu l'escroquerie. L'escroquerie consiste au fait d'user des manœuvres frauduleuses, d'user de la ruse pour pouvoir obtenir d'une personne de l'argent ou un bien quelconque. Est-ce que quand on applique cette définition légale de l'escroquerie à l'opération, est-ce que cela est établie, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a eu escroquerie ou pas. Dans les cas d'espèce, c'est difficile de conclure directement à l'escroquerie. Il faut que l'on se rende compte que tous les éléments prévus par la loi pour que l'infraction d'escroquerie soit établie sont réunis. Alors, dans ces cas-là, on peut parler de l'escroquerie.
Alors, maintenant, Dutch International vient de fermer, ou suite à une décision prise par la Banque centrale. Aujourd'hui, le souscripteur ne réclame qu'une seule chose, c'est le remboursement de leur mise. Alors, au cas où ce remboursement n'est pas opéré en bon et due forme, que prévoit la loi?
En principe, si Dutch n'arrive pas à respecter ses obligations vis-à-vis de ses souscripteurs, ces derniers ont le droit d'aller en justice pour demander la restitution de leur mise et au besoin même des dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils auraient subis. Mais on doit préciser aussi une chose, parce que nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui régissent tous les secteurs d'activité. Ici, nous nous trouvons dans un secteur des opérations financières, on parle des actes de placement d'argent, des actes de dépôt, des crédits, bon, et ainsi de suite. Ces opérations sont réservées aux institutions financières et aux banques. Et pour exploiter ces domaines, les institutions ou les organisations ou les établissements qui s'en prévaut doivent d'abord avoir l'agrément de la Banque centrale. Et on ne peut pas confondre les choses, ça on doit se le dire. S'il s'agit d'une ONG, de par sa nature, de par ses objectifs, peut organiser des activités, des microcrédits avec son fonds propre au bénéfice de ses membres. Ça, ça rentre dans le cadre des objectifs. Le problème ne se pose pas. Mais si une ONG commence à exercer des activités qui sont du ressort d'une banque, c'est-à-dire les actes de dépôt, des microcrédits, des ristournes et d'autres opérations qui arrivent par exemple à imposer des taux d'intérêt qui sont au-delà des taux usuels, ça tombe sous les coups de l'usure, là l'activité doit en principe être encadrée.
Oui, mais aujourd'hui, il y a des conflits, mais quelle est l'instance judiciaire ou juridique qui peut trancher ce genre de conflits, notamment quand il s'agit de non-remboursement, de déplacement?
En principe, pour ce qui est de la ville de Kinshasa, s'il ne s'agit pas à proprement parler des opérations financières, des opérations qui se font dans les institutions supérieures, des opérations qui ont un caractère commercial. Si ce sont des opérations qui ont un caractère commercial, c'est le tribunal de commerce de Kinshasa qui est compétent. Mais s'il s'agit des opérations qui se font dans le cadre d'une ONG, cela ressort de la compétence du tribunal de grande instance.
Alors, dans le cas où, par exemple, on se retrouve dans une institution qui fait faillite, est-ce qu'on peut parler de remboursement? Parce que ça, ce n'est pas un secret. Et une institution financière qui fait faillite ne sera pas à même de pouvoir rembourser au pourcentage de la mise de chaque souscripteur. Qu'est-ce que dit la loi comme on est?
En principe, dans pareilles circonstances, lorsque une institution fait faillite, on doit procéder à la liquidation. C'est-à-dire, on doit désigner un comité qui va procéder à sa liquidation, c'est-à-dire évaluer tous les passifs, évaluer tout l'actif, vendre même des biens mobiliers ou immobiliers pour pouvoir récupérer de l'argent et désintéresser les débiteurs ou les créanciers ou les souscripteurs. Lorsque les sommes recouvrées sont en mesure de désintéresser totalement tous les créanciers, c'est là, c'est fait sans problème. Mais lorsqu'il n'en est pas le cas, on procède au remboursement de manière proportionnelle.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que, effectivement, la loi congolaise garantit la sécurité des souscripteurs dans une banque. Ben, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas de non-remboursement ou en cas de non-respect des obligations entre les deux parties?
Les sanctions qui sont prévues, j'ai dit par exemple que lorsque le tribunal est saisi, le tribunal prononce la sentence et des condamnations. Ce sont là des sanctions. Si le tribunal condamne, par exemple, l'institution à payer des dommages et intérêts aux souscripteurs ou aux créanciers, c'est déjà une sanction que l'institution subit. Mais en ce qui concerne d'autres sanctions, par exemple des pénalités, là, il faut voir la réglementation sur l'exercice des banques lorsqu'on a exercé des activités sans les autorisations requises, sans avoir respecté la procédure. D'autres sanctions administratives et même des pénalités peuvent être imposées par la loi.
Quand il s'agit, par exemple, de l'escroquerie financière, quelles sont les sanctions?
En ce qui concerne l'escroquerie, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de servitude pénale pour l'auteur lorsque cela est établi, c'est-à-dire lorsqu'on a usé des manœuvres frauduleuses, de la ruse, pour pouvoir obtenir d'une personne ou de plusieurs personnes de l'argent ou des biens de valeur.
Dans le cas présent, lettre Dominique, vous avez défini l'escroquerie, nous l'avons tous suivi, mais est-ce que l'on peut parler d'une escroquerie dans les cas de dette internationale?
Pour le moment, je pense qu'il est prématuré d'arriver à cela parce que nous avons suivi tous les souscripteurs, quelques souscripteurs qui ont dit qu'ils ont commencé à travailler avec dette internationale depuis quelques temps et jusque-là, dette a respecté ses promesses, a tenu ses promesses, a respecté ses engagements. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'escroquerie. Il est prématuré de parler de l'infraction d'escroquerie dans les cas d'espèces acceptables.
Et maintenant qu'ils sont fermés, mais qui va rembourser tous ces souscripteurs? Est-ce qu'ils doivent se rendre auprès d'un tribunal pour pouvoir rentrer dans leurs droits?
En principe, ce qui devrait être fait, je pense, c'est d'interdire à Deutsch de procéder aux opérations financières, aux opérations des banques et de continuer ses activités en gardant ses bureaux ouverts. À ce moment-là, il peut entrer en contact avec ses membres ou ses souscripteurs et pouvoir les désintéresser. Mais lorsque tous les bureaux sont fermés, je crois que les souscripteurs sont aux abois, ils ne savent même pas à qui s'adresser et cela, ça devient un peu compliqué.
Alors, sans fermer une institution disons, financière, appelons ça comme ça, mais disons sans préavis, est-ce que la loi prévoit ça?
Bon, ça dépend de la procédure qui a été suivie. En principe, si nous avons suivi bien, les directeurs de la Banque centrale a dit qu'il y a eu des mises en garde, il y a eu des écrits, cela constitue des préavis et des mises en demeure pour pouvoir demander à Deutsch de se conformer à la loi. Et c'est enfin qu'ils ont pu prendre la décision de fermeture. Alors, mais moi, je pense que Deutsch est une ONG. La banque centrale, entre guillemets, peut-elle prendre la décision d'interdire les activités d'une ONG dans tous les secteurs? Je pense que non, mais ce qui pouvait être fait, c'est de prendre des mesures et des décisions pour interdire à Deutsch de continuer à faire des opérations financières qui rentrent dans les compétences des banques ou des coopératives ou des caisses d'épargne ou autres.
Alors, disons une question de curiosité, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un contrat entre deux parties, c'est-à-dire entre le souscripteur et la banque. Alors, il y a une troisième personne ou une quatrième personne qui vient s'infiltrer, c'est la banque centrale. Est-ce que dans les contrats, on peut dire que, voilà, quelque part, la banque centrale tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire il vient rompre un contrat qui était encore en cours?
Non, la banque centrale intervient dans le cadre de ses attributions légales. La banque a la police du secteur monétaire et financier sur tous les ressorts de la République démocratique du Congo. Et c'est même pour cela que la loi exige que pour qu'une institution ou une banque puisse opérer en République démocratique du Congo, elle doit avoir au préalable l'agrément de la banque centrale. C'est pour qu'il y ait un suivi des garanties de sécurité aussi bien pour les souscripteurs que pour la banque elle-même. Elle doit être encadrée et suivie par la banque centrale. La banque centrale ne vient pas s'interposer dans le contrat, mais la banque centrale use de ses prérogatives de police qui lui reconnaît la loi dans les cas d'espèce.
Oui, ben alors parlons un tout petit peu de la procédure. On sait tout de même que elle est très longue. Si aujourd'hui Deutsch International est incapable de rembourser à tous ses souscripteurs, les souscripteurs doivent commencer où avec leur démarche pour entrer dans leurs droits?
En principe, les souscripteurs peuvent.
Comment ils doivent les faire?
S'adresser à Deutsch pour demander que Deutsch s'exécute volontairement en restituant ou en remboursant l'argent placé ou limite. Mais lorsque cela n'est pas fait, ils peuvent par voie d'assignation saisir les tribunaux de grande instance du ressort où le siège de Deutsch est installé pour demander au tribunal de statuer sur les cas et obliger Deutsch à rembourser l'argent et au besoin les dommages et intérêts s'ils ont été postulés par les souscripteurs.
Oui, mais pour le cas d'espèce, Dash International n'est pas contre pour rembourser, mais seulement les responsables de cette institution sont aux arrêts. Donc c'est cela le problème. Et maintenant, par rapport au contrat signé avec les souscripteurs, si le délai est largement dépassé, qui va assumer tous ces désagréments?
En principe, cela repose de la responsabilité des Dutch parce que Dutch a opéré en République démocratique du Congo. Est-ce que Dutch a rempli les formalités et les conditions prescrites par la loi? Si Dutch ne l'a pas fait, à ce moment-là, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Il devait commencer par là. Le fait de n'avoir pas respecté les procédures et tout ça, là, elle s'expose elle-même. Mais en ce qui concerne les souscripteurs, Dutch demeure lié par les engagements qu'il a souscrits avec ses souscripteurs et est tenu, quel que soit le temps que cela pourra prendre, au remboursement des mises.
Et si jamais ces souscripteurs rentrent dans leurs droits et qu'ils percevaient pas la totalité de leurs mises? Parce qu'on sait qu'en ce moment, on n'a pas permis à Dutch International d'opérer normalement, si jamais il faisait des activités fructueuses, des activités génératrices de recettes. Alors aujourd'hui, avec cet arrêt, Dutch ne peut plus opérer normalement. Ce qui revient à dire qu'il n'aura pas à rembourser de la mise avec un intérêt comme contractuel. Alors aujourd'hui, vous êtes souscripteur, on vous paye pas au prorata de votre mise. Est-ce que c'est une infraction?
On ne paye pas au prorata. Si on a déclaré la faillite et qu'il y a des responsabilités et que la banque ou l'organisation est dans l'impossibilité de payer, on va payer au prorata, donc proportionnellement selon les mises des différents souscripteurs et des intéressés chacun. Et je crois que c'est cela. Mais on doit aussi se poser une question pour savoir pourquoi on a arrêté des gens. Qu'est-ce qu'on leur reproche comme infraction? Dutch est une personne morale. Est-ce que, en quoi la responsabilité pénale individuelle de ses animateurs est engagée pour qu'on puisse procéder à les arrestations? Parce que nous savons qu'on ne peut arrêter une personne que lorsque elle a commis une infraction et qu'elle est condamnée, ou encore lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur cette personne, on a plus d'indices qui prouvent que non, c'est vraiment telle personne qui a commis telle infraction, et pour l'intérêt de la justice, pour que la personne ne puisse pas se soustraire, on peut mettre la main sur la personne et la placer en détention préventive. Mais dans l'état d'espèce, on ne voit pas ce qui justifie la mise en état d'arrestation des animateurs de Dutch.
Donc, ce qui vient de dire que les responsables peuvent être interceptés à thèse.
En fait, si les responsables sont en état de détention préventive, ils peuvent demander leur mise en liberté provisoire ou même demander la main levée de la détention dès lors qu'on n'arrive pas à leur démontrer les infractions qu'ils auraient commises et démontrer les indices de culpabilité qui pèsent sur elles et démontrer que si ces personnes sont en état de liberté, il y aura obstruction à la justice.
Alors vous parlez des détentions provisoires, mais aujourd'hui, ces responsables sont aux arrêts, ça dépasse déjà plus de 48 heures.
Non mais ça c'est illégal, nous sommes dans un état de droit, nous devons faire un effort pour respecter la loi doit s'imposer à tout le monde, qui qu'il soit.
Donc à ce niveau, ceux-là qui ont mis la main sur les responsables de Dutch ont commis aussi un papier, une infraction.
Je n'ai pas les dossiers physiques pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on leur reproche, de quoi il s'agit, mais si effectivement on ne leur reproche pas des faits bien précis qui sont constitutifs d'infraction, il s'agit là d'une arrestation arbitraire.
Maître Dominique Kamandou, merci d'avoir été de notre aujourd'hui pour parler de remboursement de l'argent placé dans une institution financière. Et vous nous avez confirmé que la loi, effectivement, protège les souscripteurs. C'est par rapport aux obligations contractuelles entre des parties, c'est-à-dire les souscripteurs et la banque. Mais à ce niveau, les responsables de Dutch International, en tout cas jusqu'à à ce jour, ne connaissant pas les raisons qui ont fait qu'on puisse mettre la main sur eux, il ne s'agit pas de matière pénale et que ça constitue pratiquement une arrestation arbitraire. Voilà, donc on s'arrête là avec vous, avec Dominique, et bonne semaine.
Merci beaucoup.